de presse bimensuelle des Nations Unies. Suivez en direct de Radio Capi la conférence de presse bimensuelle des Nations Unies, mercredi de 11h15 à 12h. Rediffusion le soir à 22h et jeudi à 14h15. L'actualité des Nations Unies en long et en large sur la fréquence de la paix.
Bien, comment encourager la culture de la méritocratie en milieu universitaire? Vous savez, en RDC, l'enseignement supérieur et universitaire est miné par la corruption, le clientélisme, les tribalismes. De nombreux étudiants passent des promotions ou décrochent leurs diplômes sans aucun mérite. Ils sèchent les cours pendant presque toute l'année et attendent le moment opportun pour venir corrompre et voilà, s'attirer les faveurs de certains professeurs afin d'avoir les bonnes notes. Alors, on parle aussi même des points sexuellement transmissibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la méritocratie en milieu universitaire? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Philippe Tonda Kileuka. Il est professeur ordinaire et secrétaire général académique de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Professeur Philippe Tonda, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la méritocratie?
Bon, alors la méritocratie signifie simplement le fait de pouvoir incarner les valeurs positives au niveau de la société. Alors, c'est comme ça que je peux définir cela.
Incarner les valeurs positives.
Incarner les valeurs positives, promouvoir les valeurs positives.
Par exemple, quels sont ces types de valeurs?
Par exemple, le goût de l'effort. Parce que, en fait, lorsque on étudie, l'étudiant est censé fournir les efforts. Et en contrepartie, ce sont les notes qu'on donne pour montrer que l'étudiant, effectivement, fournit des efforts. Alors, il y a cela. Il y a également d'autres dispositions. Par exemple, d'autres dispositions comme, je dirais, le respect. Le respect des instructions académiques, parce que là, nous sommes en milieu universitaire. Le respect des instructions académiques. Et dans ce volet, je peux dire il faut bannir la tricherie, les antivaleurs et tout le reste.
Et quelles sont les raisons qui font que de plus en plus dans les milieux universitaires, la méritocratie n'est plus prise en compte? Les gens préfèrent beaucoup plus des antivaleurs, passer par la fraude, la tricherie pour gagner.
Bon, je dirais simplement que il faut reconnaître que les gens exagèrent aussi. On dit plus de mal que de bonnes choses, parce que dans les milieux universitaires, il y a en réalité beaucoup de bonnes choses qui se font, mais dont on parle très peu. Mais il faut reconnaître aussi que, comme vous l'avez dit, il y a des étudiants qui au lieu de fournir des efforts préfèrent attendre le dernier moment pour se livrer à la fraude. Mais ce sont des choses que nous combattons. Donc, je ne peux pas expliquer ce phénomène, me mettre à la place de ceux qui pratiquent cela. Vous savez, c'est comme la corruption au niveau de la société. Notre objectif est de combattre cette corruption pour promouvoir les valeurs positives.
Voilà. Et lorsque la corruption s'installe dans les esprits, dans tout ce que nous faisons, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence, professeur? Surtout en milieu universitaire.
Oui, surtout en milieu universitaire, parmi les conséquences, je peux citer la mauvaise qualité de produits sur le marché. Et vous savez qu'il y a certaines sociétés qui refusent même d'accueillir les étudiants de certaines institutions parce que ces étudiants-là sont très mal formés. Alors, lorsque on laisse la corruption, lorsque on tolère cette corruption, la conséquence, c'est entre autres les produits de mauvaise qualité. Et à ce moment-là, les produits qui sont déversés sur le marché, et s'ils sont de mauvaise qualité, ça signifie que à terme, ces produits vont avoir une incidence négative sur le développement du pays.
Voilà. Nous avons déjà quelques auditeurs en ligne qui appellent pour participer à cette émission. Comment encourager la culture de la méritocratie en milieu universitaire? Platinum Bombo, vous êtes à Mbandaka. Bonjour.
Je dis bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. Bon, je dis Daniel Kachama pour m'avoir associé dans ce débat. Je voudrais aussi vous encourager pour la thématique d'aujourd'hui. C'est très intéressant quand on parle de l'université. Et bien vu, l'invité lui-même a parlé, hein, qu'est-ce qui se passe, tout ce qui se passe dans nos milieux étudiants, dans différentes universités à travers la République démocratique du Congo. Alors moi, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Je voudrais simplement, c'est l'invité, de me dire, hein, qu'est-ce que signifie les mots méritocratie, hein, c'est un thème là que je vais appeler trop fort parce que vous avez dit comment encourager la méritocratie. Alors c'est l'éviter de nous expliquer, hein, qu'est-ce que signifie ce mot là, c'est quoi, et maintenant si faut encourager, il faut encourager dans quel sens, il faut encourager les enseignants ou bien il faut encourager les étudiants. Voilà toute ma petite question et je dis et je vous remercie.
Merci Platini Mbombo de Mbandaka. Israël, vous nous appelez depuis Butembo. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'éminent professeur. Merci de m'émerger également parce que c'est la première fois que j'appelle au courant de cette année.
Merci Israël de Butembo. Quelle est votre préoccupation par rapport à ce thème?
Oui, j'ai dit ce thème m'intéresse. J'ai fini à l'université, j'ai été plusieurs étudiants, ça veut dire que je connais au moins beaucoup de cas de ces histoires. Alors, mes problèmes, c'est que, j'ai dit, vous allez comprendre avec moi et les professeurs au studio, c'est qu'à l'université, il y a un cours qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Et dans ce cours, quand on l'étudie en juin 1, on finit ce cours sans qu'on puisse parler des choses comme ça. Moi, j'aurais aimé que le meilleur professeur qui est au studio, étant qu'un professeur ordinaire, puisse aider les autres collègues à organiser bien ces cours et déjà à juin 1 à l'accueil de ces nouveaux étudiants, qu'on puisse lui parler exactement de ce qu'on appelle la vie académique, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout par rapport au comportement moral, à l'éthique, à la déontologie de ce qu'il veut faire et à son comportement entier par rapport aux 5 à 8 ans qu'il va faire à l'université. C'est très très important, mais que ce cours, quand on termine ce cours, ça qu'on puisse parler de ça, eh bien les petits étudiants congolais se débrouillent de sa manière. C'est comme ça que vous avez cité beaucoup des antivaleurs au début de l'émission. Donc c'est ça vraiment ma préoccupation.
Merci Israël de Butembo. Jérémy nous appelle de Lubumbashi. Bonjour. Bonjour Jérémy. Voilà, Jérémy n'est pas là, il va certainement rappeler. Professeur Philippe Tonda, Platini veut savoir que signifie exactement la méritocratie et comment encourager cela.
Bon, en fait, la méritocratie signifie simplement exploser par le mérite. C'est-à-dire un méritocrate, c'est quelqu'un qui a explosé grâce à ses mérites. Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, en fait, dans la société, il est tout à fait normal qu'on promeuve les qualités positives. Mmh. Hein, tout ce qui est positif, et donc le mérite. Le mérite signifie que quelqu'un qui fait quelque chose de bien, on doit pouvoir reconnaître cela. Alors, en plus de cela, ce que je peux dire dans le cadre de la méritocratie, c'est que nous devons effectivement encourager les étudiants à avoir une certaine éthique, à respecter les principes, le respect des valeurs, etc. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Mmh. Alors, en ce qui concerne la deuxième intervention, qui est venue de Butembo à propos du cours de
l'éducation à la citoyenneté.
Je partage tout à fait le point de vue de cet auditeur. En fait, ce cours est un cours qui permet aux citoyens de devenir responsables, de savoir que dans une société, il y a un certain nombre de valeurs qu'on doit pouvoir respecter. Et en ce qui concerne le contenu de ce cours, bon, je crois que les spécialistes, ceux qui enseignent ce cours, savent à peu près ce qu'ils doivent dire. Bon, maintenant, sur le terrain, est-ce que les étudiants, quand ils terminent leur cours, lorsqu'ils terminent leurs études, est-ce qu'ils suivent tout ce qui a été dit dans le cours? Ça, c'est un autre volet. Vous savez que l'éducation est un processus de longue haleine. Mmh. Et donc, ça doit se poursuivre même au niveau de la société. Mais je conviens avec lui que dans ce cours, il faut insister sur les valeurs à préserver, comment se comporter au niveau du pays, etc., etc. Donc, des aspects d'éthique doivent être enseignés. Et je suis certain que ces aspects sont bien sûr enseignés dans ce cours-là.
Et quelles sont, en parlant des valeurs qu'il faut encourager, quels sont ces types de valeurs qu'il faut demander aux étudiants à préserver?
Bon, la liste est évidemment longue. Ici, je ne ferai pas une énumération exhaustive. Mmh. La première valeur, c'est d'abord fournir des efforts, parce que on ne peut pas aller à l'université, on n'y va pas pour s'amuser, on y va pour apprendre. Et acquérir des connaissances suppose des efforts. Les efforts qui doivent être fournis au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire au niveau des cours.
La présence au cours.
Pour les comprendre. Mm-hmm. Et cela suppose qu'il faut être présent au cours. Deuxième aspect, toujours dans le cadre de ces efforts, c'est la recherche scientifique. Parce qu'au niveau de l'université, on suppose que les étudiants se préparent à effectuer des recherches scientifiques. Cela signifie que les étudiants doivent, après les cours, se retrouver dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques, et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des bibliothèques en ligne. Alors, à côté des efforts, ça c'est ce qu'on demande au niveau des individus, nous avons le respect des valeurs morales, parce que je crois que dans une société civilisée, nous devons nous respecter les uns les autres. Donc il faut savoir respecter les enseignants, respecter ses collègues de promotion. Troisième aspect, c'est la protection des infrastructures. Comme vous le savez, les infrastructures permettent justement de pouvoir dispenser un enseignement de qualité. Mais ces infrastructures doivent être protégées.
Et ça, lesquelles, par exemple?
Les bibliothèques. Il y a des gens qui
prennent des ouvrages et qui ne les remettent jamais.
Qui ne les remettent jamais. Et il y a, par exemple, la destruction méchante des bureaux, etc. Cela arrive souvent lors des manifestations.
On a suivi dernièrement à l'université de Kinshasa.
Voilà. Ça sont des choses qu'il faut bannir, absolument bannir. En fait, il faut bannir la violence. La violence, et il faut promouvoir l'esprit de tolérance. Donc, à la violence, il faut opposer la tolérance.
La tolérance.
Voilà. C'est ce que je peux dire à ce niveau de...
À ce niveau-là. Donc, il y a aussi la ponctualité,
l'honnêteté. Oui, la ponctualité aussi, voilà. Parce que... la ponctualité est une exigence aussi bien pour les étudiants que les enseignants. Parce que les enseignants doivent apprendre à commencer les cours à temps. Et lorsqu'un cours est prévu à 8h30, les enseignants doivent être là à 8h30 pour commencer le cours. Et les étudiants doivent arriver un peu plus tôt. Parce que vous savez, lorsque les étudiants font des va-et-vient, lorsqu'il y a des arrivées tardives, ça perturbe le bon déroulement du cours.
Et surtout, vous avez insisté sur le travail, il faut travailler durement.
Il faut travailler durement, oui. Parce que nous sommes dans une situation de concurrence. Ceux qui sont formés ici sont en concurrence avec ceux qui sont formés ailleurs. Parce que, en fait, dans le monde professionnel a des exigences. Vous devez avoir de la compétence, vous devez avoir des connaissances sûres. Et vous savez, ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à les défendre. Et ça, c'est ce qui n'est pas bon.
Bien. Comment encourager la culture de la méritocratie en milieu universitaire? On en parle aujourd'hui avec le professeur Philippe Tonda, secrétaire général académique d'un institut facultaire de sciences et d'information et de la communication. Jérémy Mouambade Lumbashi et Albert Mwananga, vous êtes à Kananga. Jérémy, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Bonjour également au professeur avec vous sur le plateau.
Je parlerai juste, j'interviendrai hein, dans cette thématique sous des volets. Hein. D'une part, j'évoquerai un peu la cause hein, de la mauvaise qualité hein, d'enseignement qui donne lieu à l'incarnation de ces valeurs négatives dont l'attribution revient aux enseignants eux-mêmes hein, des instituts supérieurs et universitaires. Deuxièmement, je vais maintenant parler d'abord des étudiants eux-mêmes, parce que je suis l'étudiant qui a eu dans sa vie. Je fais partie des étudiants, hein, je suis étudié presque dans des institutions supérieures.
Oui.
D'une part, l'ISP de Lubumbashi, également à l'ISC de Lubumbashi toujours. Alors, je connais de quoi je parle, parce que...
Alors, Jérémy, est-ce que... Jérémy, est-ce que là où vous avez étudié, les étudiants ont mérité leur réussite? Il y a certains qui distinguent, et les collègues ne sont pas d'accord avec cette distinction-là. On dit que non, c'était un étudiant irrégulier. Comment est-ce qu'il a pu avoir ces distinctions? Est-ce que vous avez connu également ces genres de situations?
C'est ce que je voudrais évoquer, juste, j'ai vraiment de la démangeaison hein, lorsque je prends parole pour parler sur ce point. Il y a beaucoup de choses. La méritocratie, à ce moment, en parler au Congo, ce n'est qu'une utopie hein, qui laisse vraiment beaucoup de choses à désirer. Vous n'avez qu'à voir un étudiant qui a séché les cours il y a un moment, vous les trouvez arriver peut-être au sommet du classement, ça étonne un peu. Alors, je suis en train d'ailleurs de parler, d'écrire hein, sur les problèmes de l'enseignement. Je pense que il faut mettre un peu sur pied aussi une équipe des inspecteurs pour faire un suivi aux assistants, voire même aux chefs de travaux qui enseignent. Il faut qu'il y ait vraiment des inspecteurs derrière pour suivre les choses. Je n'arrive pas à comprendre comment les choses n'arrivent pas à marcher dans notre pays. C'est pourquoi les choses ne peuvent jamais décorer comme il se doit. Il y a vraiment, la méritocratie vraiment est loin d'être retrouvée. Il faut vraiment secouer. Qui doit secouer les professeurs et surtout les chefs de travaux et voir surtout les assistants qui aujourd'hui on les ramasse en cours. Quelqu'un qui n'a pas distingué, vous les voyez et on les récupère.
Désolé, il y a eu une coupure, mais on a quand même compris votre préoccupation. Albert Mwananga, de Kananga, bonjour.
Bonjour, M. Jodi, et bonjour à notre invité.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la méritocratie?
Oui, je pense que je dois un peu poser deux ou trois questions à notre invité. Oui, la première des choses, dans notre système éducatif, M. Jodi, il faut comprendre que on a d'abord changé la mentalité. Et aussi combattre ou bannir donc les antivaleurs. Donc là aussi notre système éducatif est un peu, on peut dire un système à problème. Hein. Il y a trop de choses là qui se passent là-dedans. Et ça c'est la première préoccupation, ce n'est pas du tout, c'est un constat un peu pour moi. J'aimerais poser la question à notre invité. Oui.
Bien.
Pourquoi nos universités et la RDC ne sont pas comptés parmi tant d'autres? Est-ce que nos professeurs à nous, s'en demandent ou bien comment? Ils négligent comment? C'est à quel niveau? Pourquoi on n'arrive pas aussi à être comptés parmi tant d'autres universités du monde ou de l'Afrique? Est-ce que c'est dû à notre système ou bien à nos antivaleurs qui nous gangrènent au fait? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que notre invité, le professeur qui est sur le plateau,
oui,
peut établir un peu l'état des liens ou le niveau de la méritocratie pour notre système éducatif, surtout les appréciations et les observations des professeurs à ce niveau? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bien, merci. Maître Abedi de Kindou, bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour à l'invité, professeur, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, maître.
Permettez-moi d'abord de commencer par vous souhaiter bon anniversaire à Radio Capi.
Merci.
J'ai tenté de vous appeler hier, mais ça n'a pas passé, et j'étais malheureux d'écouter que le représentant de la MONUSCO au studio avait dit que la Radio Capi devrait fermer. Et ça, vraiment, on dit qu'on fera tout ce qui est à notre pouvoir pour que la Radio Capi reste là. Parce que nous priver de Radio Capi, c'est comme nous priver de l'information crédible. Tout ce que je voudrais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que la méritocratie, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous le savez bien, J'ai fini, j'ai le privilège de finir parmi l'une des trois universités de l'ARDC, en l'occurrence c'est l'université de Kitonari. Mais le problème de la corruption, j'ai remarqué tout droit aux professeurs des universités. Parce que, vous savez, dans la loi congolaise, en ce qui concerne la corruption justement, on punit et le corrupteur, et celui qui tente de corrompre, et celui qui est corrompu. Mais si vous regardez le problème de la corruption dans le milieu universitaire, il y a des étudiants qui partent vers les professeurs pour solliciter le point qui est compensé par de l'argent. Et curieusement, il y a des professeurs. Nous avons de très bons professeurs dans le Congo qui donnent très bien les cours, mais qui ne sont pas riches dans le point, dans la distribution, dans la correction des examens et interventions. Et c'est ça justement le problème. Je voudrais poser la question à notre invité sur le studio aujourd'hui. Quel mécanisme est pris en compte par les universités pour justement mettre la méritocratie au devant de toutes choses? Parce que si seulement le professeur aujourd'hui accepte et décide de ne plus laisser passer quelqu'un qui n'a pas de niveau, je vous assure, monsieur, je dis que ce système va s'arrêter. Et on n'aura pas la panoplie des étudiants qui ont fini dans des universités avec beaucoup la multitude de diplômes, de personnes qui ne sont pas à mesure de formuler une seule phrase sans commettre une faute. Et je me demande quels gens, on dit seulement que nous avons beaucoup de gens, nous avons beaucoup de diplômes, il y a beaucoup de chômeurs, mais il faut se poser la question, comment est-ce que toutes ces personnes sont arrivées à décrocher les diplômes de licence? On a fini avec des étudiants comme ça, vous faites en deuxième licence avec un mais qui n'a jamais pris note, qui vous amène toujours, vous êtes des amis, c'est lui qui vient après pour prendre vos notes, pour les copier ou les polycopier, les photocopier. Et donc, de personnes qui n'ont rien dans la tête, et les jours de collation de grade à Longuinaïe, et voilà, que tout le monde a son diplôme.
Avec grande distinction.
Alors que ça, c'est avec grande distinction parfois. Il y a même, moi je me rappelle dans mon université, il y a des professeurs qui disaient, voilà, vous autres les enfants de pauvres, qu'est-ce que vous venez faire à l'université? Parce que l'université, c'est pas faite pour les enfants de pauvres. On dirait, parce que quelqu'un est fils de professeur, il doit à coup sûr devenir professeur. C'est comme si on était encore dans le corporatisme. Et donc, c'est comme ça que je vous dis.
Ça, c'est le phénomène des enfants d'abord.
Comme j'ai posé la question là, oui, les enfants d'abord. Est-ce qu'il y a des mécanismes que les universités prennent en ligne de compte pour justement décourager ces problèmes et faire de la RDC et des méritocrates? Merci.
Merci, Maître Abedi de Kindu. Comment encourager la culture de la méritocratie en milieu universitaire? Yannick, vous êtes à Manono. Bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis bonjour au professeur avec qui vous êtes au plateau.
Quelle est votre préoccupation?
J'aimerais poser des petites préoccupations. D'abord, je commence par un petit commentaire. Je suis André 1, à l'UST, ici à Manono. Et maintenant, j'aimerais voir s'il y a la différence qui existe entre les institutions supérieures et universitaires par rapport aux frais académiques payés. Ici à Manono, nous avons une seule institution supérieure. Et là-bas, nous payons les frais académiques et autour de 160.5. Mais dans les universités, ici à Manono, beaucoup payent et autour de 92. Maintenant, il y a un jour comme ça, nous nous sommes dit avec nos collègues, nous sommes allés voir les deux yeux pour dire s'il y a, si on peut un peu adoucir les taux de frais que nous payons. Il a dit non, ça ce sont des frais déjà fixés par le ministre. Maintenant, j'aimerais poser si ces taux fixés par le ministre, c'est parallèlement dans toutes les institutions, soit par volonté. La deuxième question est celle de savoir, par exemple, si je suis un étudiant. L'assistant dit que mon cours, les cours commencent souvent à 8h juste ici. Maintenant, lui dit, moi j'admets seulement des retards de 5 minutes par étudiant. Mais quand lui fait, peut-être lui arrive, au lieu qu'il arrive à 7h30 pour se préparer et animer le cours, il arrive à 8h50. Et maintenant, si vous étiez étudiant, quelle est l'attitude que vous devez prendre par rapport à ce constat? Et encore, j'aimerais dire ceci. Il y a des étudiants qui s'absentent souvent à l'auditoire Il y a des cours que nous apprenons, des cours qui sont très musclés, qui ne demandent même pas une absence journalière. Par exemple, les cours que nous étudions à l'université et à l'ISP, qui est le nommé d'algorithme, c'est un cours à caractère scientifique, un cours très musclé, plus que la mathématique. Une fois que vous absentez, c'est fini, vous êtes en retard et vous êtes resté carrément. Il faut voir à quelqu'un qui peut vous l'expliquer, mais lui aussi, il faut qu'il soit un peu fort dans ses cours pour qu'il vous explique mieux.
Oui.
Grâce au cours, il y a certains étudiants qui s'absentent. Mais vous verrez à l'interrogation, il ne fait rien. Vous êtes là, il vous regarde. Lorsque vous donnez la réponse, ils sont là, ils regardent. Mais lorsque vous aurez la moitié affichée, vous verrez que ces étudiants ont des points. Maintenant, nous nous demandons, ça c'est une manière de ne pas encourager ceux qui font la lecture, puisque
d'accord.
La méritocratie.
D'accord, merci. Merci Yannick de Manono, merci à tous les auditeurs pour ces préoccupations. Professeur Philippe Tonda, vous avez la parole.
Je vais ramasser toutes ces préoccupations. D'abord, oui. Je commence par les causes de la mauvaise qualité de l'enseignement. Bon, mais je ne dirais pas ici que l'enseignement tel qu'il est dispensé ici en RDC est de mauvaise qualité. L'enseignement est de bonne qualité, parce qu'il suffit simplement de voir le contenu de cours. Et d'ailleurs, au niveau des universités, nous insistons sur le contenu de cours. Nous demandons tout le temps aux enseignants de présenter, de déposer auprès des autorités de la section ou des autorités des canals le plan du cours, les objectifs du cours, quels sont les objectifs que vous poursuivez. Mmh. Alors, ce sont ces éléments-là qui nous permettent de vérifier la qualité de cet enseignement-là. Bon, globalement, je dirais que la qualité est bonne. Hormis quelques cas que je peux qualifier de marginaux.
Mais si on déplore aujourd'hui la baisse du niveau, c'est beaucoup plus du côté des...
C'est beaucoup plus du côté
des produits qui arrivent du secondaire.
Voilà, c'est beaucoup plus du côté des étudiants.
Oui.
En fait, beaucoup d'étudiants, il faut le reconnaître, ne fournissent aucun effort.
Et il y en a beaucoup de lacunes.
Voilà, ils reçoivent des cours, mais à leur niveau, ils ne se donnent même pas la peine d'étudier. Les cours sont bien donnés, mais eux ne se donnent vraiment pas la peine d'étudier. Bon, il y a quelques-uns qui étudient, mais beaucoup n'étudient pas et espèrent réussir sans avoir fourni beaucoup d'efforts.
Alors certains ont déploré le fait que vous êtes dans un même auditoire, vous voyez à la fin de l'année académique, les étudiants reconnus paresseux qui sont irréguliers, ils passent des classes avec une grande distinction et ses amis sont choqués.
Mais ça ce sont des cas, je crois que ce sont des cas rares. Mais en plus, il faut les vérifier. Parce que dire que M. Tel ne vient pas souvent au cours, parce que de manière générale, ceux qui ne vont pas au cours, de manière générale, échouent. Mais s'il arrive que quelques-uns parmi eux réussissent, bon, je ne peux pas ici dire qu'ils ont réussi parce qu'ils ont corrompu. Il y a aussi qui ne sont pas très réguliers au cours, mais qui travaillent, qui étudient, qui vont dans des bibliothèques. Donc ce sont des situations qu'il faut clarifier avant de donner une réponse définitive. Alors, il y a un intervenant qui a parlé des inspecteurs. Mais je crois qu'au niveau de l'université, les inspecteurs, c'est d'abord les étudiants eux-mêmes. Parce que les étudiants savent ce qui est donné par les professeurs. Les premiers inspecteurs, c'est d'abord les étudiants eux-mêmes. Ce sont les étudiants qui finissent par évaluer le travail qui est fait par les enseignants. À côté des étudiants, nous avons les autorités académiques. Les autorités académiques ont l'obligation de surveiller le déroulement des enseignements au niveau de l'université. Alors, en ce qui concerne il y a d'autres aspects il y a un auditeur qui a parlé il s'est posé la question de savoir pourquoi nos universités ne sont pas citées parmi les meilleures. Mm-hmm. Bon, moi je dirais que en réalité nos universités figurent parmi les meilleures parce que nous avons beaucoup de professeurs de haut niveau. Le problème c'est quoi? C'est que je suis certain que nous ne sommes pas suffisamment représentés dans certaines institutions internationales. Donc, nous ne faisons pas la promotion de nos universités. parce qu'il y a aussi la, les aspects de relations publiques. Il faut montrer aux autres ce que vous faites réellement. Mais lorsque vous évoluez en vase clos et vous ne dites rien, bon, ceux qui ne reçoivent rien, qui n'ont aucune information sur vous, ont tendance à dire que vous... Parce que l'université congolaise a produit beaucoup d'intellectuels et qui sont réclamés à travers le monde. Moi, je connais des assistants, des étudiants qui ont terminé ici, qui sont allés à l'étranger, qui ont brillé, et qui ont même été retenus là-bas. Mmh. Mais on ne dirait pas que ces gens-là ont été mal formés. Donc, c'est ça le problème.
Donc voilà, un étudiant qui arrive à l'université, il doit venir, vous avez dit, il doit préserver les valeurs. Il doit aimer le travail, travailler dur, être ponctuel, honnête, et puis fournir beaucoup d'efforts, vous avez dit,
ouais,
être au cours, et puis dans les bibliothèques, et puis... Et à la fin, bon, il va mériter ce qu'il aura comme résultat.
Oui, tout à fait, parce que, en définitive, l'effort paye. Et lorsqu'on ne fournit pas des efforts, à ce moment-là, on ne peut rien attendre de sérieux en retour. Alors, mais je voulais également aborder un aspect qui a été évoqué par un auditeur sur le taux. En fait, le taux, ça c'est un problème qui dépend du ministère. C'est le ministère qui régit... ce secteur-là, et qui dit quel est le taux auquel les étudiants, quel est le taux qui doit être pratiqué dans tel ou tel établissement.
Bien. On va accueillir Kachai de Kanyoka et la Meji nous appelle de Lubumbashi. Comment encourager la culture de la méritocratie en milieu universitaire? Professeur, qu'est-ce qu'on fait pour encourager cela? Est-ce que les étudiants, les bosseurs, vous avez des récompenses que vous leur accordez? Comment vous faites pour les encourager?
Bon, pour
ceux qui travaillent déjà bien.
D'abord, c'est au niveau de la cotation. Les notes doivent refléter le niveau d'effort fourni par les étudiants.
Mmh.
C'est-à-dire que celui qui a bien travaillé doit être bien coté. Celui qui a moyennement travaillé doit avoir une cote qui correspond à cela. Celui qui n'a pas bien travaillé, eh bien, celui-là a une mauvaise note. Bon, ça c'est au niveau de l'établissement. Mais en dehors des établissements, il y a des prix aussi qui sont décernés par-ci par-là. Je peux donner l'exemple de la fondation, il y a une fondation Raouji qui a l'habitude d'accorder des prix aux meilleurs candidats dans des établissements.
Mmh.
Mais à notre niveau, ce que nous faisons pour encourager, c'est de donner les notes qui correspondent aux efforts qui ont été fournis.
Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama, et bonjour, monsieur le professeur.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur, je dis. Je voulais, avant de poser la question, faire un petit constat. Monsieur le professeur, parce que vous avez un peu bien parlé par rapport à cette situation dans nos universités et instituts supérieurs, mais il se peut qu'actuellement, les étudiants faibles ne veulent pas reprendre l'année. Ils ont échoué, ils cherchent à aller faire des relevés des côtes, des attestations, pour qu'ils aillent ailleurs et prendre l'inscription ailleurs. Et comme il y a un problème des étudiants aussi, parce que quand on trouve beaucoup d'universités, beaucoup d'instituts supérieurs dans un coin, alors ils cherchent à avoir, chaque institution cherche à avoir des étudiants. Et dès lors qu'un étudiant trouve qu'il a échoué, par exemple à l'université Notre-Dame du Katai, il doit aller ailleurs, à l'ISP, pour prendre l'inscription parce qu'on a besoin des étudiants et il n'y a pas un contrôle. Les suivis, la collaboration entre les établissements pour savoir demander dans les palmarès si l'étudiant avait réussi ou pas, on l'admet parce qu'on a besoin de l'étudiant, il faut qu'il paye. Et pourquoi je voulais aussi demander à messieurs les professeurs, il n'y a-t-il pas moyen à ce qu'ils s'organisent pour demander d'abord au ministre d'arrêter et prendre les arrêtés portant création des instituts supérieurs, des universités, à tout, parce que ce n'est pas comme à l'EPP où on doit avoir des écoles dans tous les villages, dans tous les secteurs, dans toutes les chefferies. Les universités se créent sur base de certains critères. si vous n'avez pas de professeurs, les cours seront donnés par qui? Si vous n'avez pas des professeurs à la matière, des professeurs qui s'y connaissent, les cours seront donnés à l'université par un enseignant de l'école primaire ou soit par un professeur d'université. On crée des universités un peu presque partout. En tout cas, c'est une entorse à un bon enseignement, un bel enseignement en République démocratique du Congo. Deuxièmement, c'est par rapport à ces sujets aussi concernant la méritocratie. J'ai trouvé dans une université où on avait institué un système de Borezanga Kombo lorsque les étudiants présentent les examens.
C'est quoi Borezanga Kombo?
Oui, Borezanga Kombo, c'est ce qu'ils appellent un papier sans nom. Hein? Sur les papiers, on donne seulement les numéros. Chaque étudiant est identifié sur base du numéro que le bureau du jury lui a donné. Donc, il présente l'examen sans que sur sa copie, les noms y figurent.
Oui.
Mais quand ils font ça, à des fois, à la fin, là, les uns ne se retrouvent pas avec des causes. Quand vous demandez pourquoi vous avez institué ce système de Borezanga Kombo, on vous dit que c'est pour minimiser la corruption, décourager les correcteurs, ainsi de suite. Mais vraiment, ça n'encourage pas les autres à continuer normalement avec leurs études. C'est pourquoi je voulais demander, est-ce que ce système-là de Borezanga Kombo, d'instituer ce système-là dans les universités, peut aussi encourager la méritocratie au sein de nos universités? Troisièmement, pour finir, c'est le cas qui concerne spécialement les étudiants. Les étudiants sont devenus des victimes consentantes. Ils acceptent des pratiques perpétrées par les chefs des travaux, les assistants, surtout dans les universités où il n'y a pas beaucoup de professeurs. Ce sont les chefs des travaux et les assistants qui prennent les cours. Ils sont dans des pratiques de collaboration avec les étudiants, sexuellement transmissibles. Le passage pour les étudiantes est facile et libre, sans que les parcours ne soient parsemés d'embûches, parce qu'elles donnent leur corps. Les garçons, il faut qu'ils se débrouillent. Parfois, les universités qui sont au village, les étudiants doivent aller faire les champs pour les assistants. Alors, vous voyez tout ça, des travaux pénibles, des corvées infligés à l'endroit de nos camarades.
D'accord, merci.
Je voulais demander à l'invité, quel mécanisme adopter pour pouvoir décourager ces actes-là? Parce que la corruption, jusqu'à preuve du contraire, existe.
D'accord, merci. Merci, Kachai. On a bien compris votre question. On va accueillir Elamegi Jésus, qui nous appelle de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jogi. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe de Radio Capi. Un plein succès particulièrement au magazine, au Capi Service, au Capi Sport et Parole aux auditeurs.
Merci Elamegi. Quelle est votre question par rapport à la méritocratie en milieu universitaire?
Voilà, je vais d'abord rebondir avec ce que M. Katia venait de dire sur le système de Borezanga Kombo et le système code-barre. C'est un système que nous vivons ici. Mais il se fait qu'il y a toujours des lacunes, on reste congolais.
Donc ça veut dire que on donne un examen sans mentionner les noms des étudiants, on les remplace par un numéro pour éviter la corruption, c'est ça?
Oui, on vous remet un identifiant et une copie de preuve, mais à la fin, pour que les copies parviennent au professeur, on détache l'identifiant. L'identifiant reste à la faculté. Et le professeur n'aura que la copie d'interrogation sous format... Donc, il y a juste un numéro, un code là. Lui se retrouvera qu'avec le numéro, il ne sait pas de quel étudiant s'agit-il. L'identifiant reste à la faculté.
D'accord. Alors, quelle est la question par rapport au thème?
Voilà, par rapport au thème, je vais d'abord m'expliquer. Il se fait que à l'université, on étudie souvent dans des groupes. Par exemple, mon cas, j'ai un groupe là... L'année passée, j'avais un groupe de 20 étudiants. On brossait dur. Il y a un étudiant, j'ai deux ou trois amis là. Ce sont des étudiants là qui vous motivent. L'heure, tout le temps, ils passent toujours à lire. Si tu les regardes à la maison, il n'est pas là. Donc, assure-toi qu'il est dans un siège où il lit. Mais arrivé à la délibération, il se fait que moi, je réussis. Ces deux amis là qui étaient comme les têtes du groupe ont échoué. Au lieu de me réjouir de ma réussite, je m'inquiète. Comment est-ce que ces étudiants ont échoué? Tant que quand je m'évalue, je ne vois pas en quoi je les dépasse.
D'accord.
C'est que je vais devoir demander.
D'accord.
Je demande
à l'invité, bien l'invité. Sûr. Merci, El Amedji. On va accueillir Mogo qui nous appelle depuis WhatsApp. Bonjour, Mogo.
Bonjour, Radio Capi. Joyeux anniversaire à vous tous.
Merci, Mogo. Quelle est votre préoccupation par rapport à la méritocratie en milieu universitaire?
L'émission est intéressante. Je voudrais justement parler à propos de cette situation-là. Chez nous, à l'intérieur, autrefois, il n'y avait pas beaucoup d'universités, d'études supérieures. Alors, cette histoire commence à naître ces derniers temps. Et puis, on se retrouve dans un contexte de concurrence terrible où aucune institution ne veut libérer aucun étudiant pour aller ailleurs, d'où on dorlote les étudiants, et ainsi de suite. Pour enseigner, si vous vous attelez sur la science seulement, parfois on vous retire tel cours, on l'attribue à quelqu'un d'autre, puis parce qu'on pense que vous faites plus les étudiants. Alors, pour ne pas tomber dans ce cas-là, on se laisse généralement faire par les étudiants là, il faut faire donner des points pour garder les cours pour l'année prochaine, et puis suivre moins. Moi, je me dis que ça peut être très alarmant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va exactement faire, parce qu'on se trouve dans un contexte de concurrence terrible.
Oui. Merci, vous êtes dans un contexte de concurrence, il y a plusieurs établissements à la recherche des étudiants. Professeur Philippe Tonda.
Oui, en ce qui concerne la première préoccupation qui a été soulevée par un auditeur concernant les étudiants qui refusent de prendre de reprendre l'année.
Les étudiants faibles, qui sont prêts à aller fabriquer des diplômes, aller prendre l'inscription ailleurs.
Mais je crois que lorsqu'un étudiant refuse de prendre l'année, les autorités académiques doivent rester fermes. Celui qui a échoué, a échoué. S'il doit quitter l'université, il quitte. Et donc, ça, c'est de la responsabilité des autorités académiques qui doivent appliquer les dispositions académiques de manière rigoureuse. Celui qui a échoué, il a échoué. Et c'est le constat qu'on peut faire.
Et il y a même des étudiants qu'on peut renvoyer de l'université.
Oui, mais ceux qui doivent être renvoyés doivent l'être. Donc, il n'y a pas de complaisance à ce niveau-là. Alors, il y a une préoccupation liée à celle que je viens d'évoquer ici. Celle qui concerne les étudiants qui se font fabriquer de faux documents pour aller s'inscrire ailleurs. Ça, c'est une infraction. Le faux est une infraction. Et donc, normalement, ces étudiants-là sont des étudiants qui devaient être traduits devant la justice. Alors, lorsqu'un établissement d'accueil, il y a un autre établissement, un établissement d'accueil, accueille les étudiants qui viennent d'ailleurs, mais la moindre chose à faire, c'est de vérifier. Il faut vérifier auprès de l'établissement de provenance si les
résultats... On demande aussi les relevés de cotes.
Oui.
Généralement,
ils présentent de faux relevés de cotes.
Oui.
Mais lorsque ces relevés arrivent, ce que les autorités de l'établissement d'accueil doivent faire, c'est d'envoyer une équipe pour vérifier l'authenticité de ces documents-là.
Mmh.
Et s'ils découvrent que ce sont des faux documents, ils doivent mettre ces étudiants-là à la disposition de la justice. C'est vraiment simple, aussi simple que ça. Alors, en ce qui concerne la prolifération des établissements d'enseignement supérieur, bon, ça c'est un problème qui concerne le gouvernement, mais je me souviens, il y a quelques années, on avait initié une enquête de viabilité à travers le pays, et on a pu identifier des établissements qui n'étaient pas viables. Et je crois même qu'il y a eu des décisions qui ont été prises contre des établissements qui n'étaient pas viables.
Mmh.
Et ça c'est quelque chose sur lequel l'État doit pouvoir faire attention.
Et quelqu'un a dit tout à l'heure comment encourager la méritocratie alors qu'il y a certains assistants et chefs des travaux qui ne respectent plus les valeurs morales, éthiques,
les chefs des travaux et les assistants ne respectent pas, il revient aux autorités académiques de les sanctionner. Vous ne pouvez pas garder un chef de travaux et un assistant qui se livre à des pratiques de corruption. Si les faits sont établis, le chef d'établissement doit pouvoir prendre des sanctions.
Et on doit sanctionner et les corrupteurs et les corrompus.
Oui, les deux.
Les deux.
Donc le chef de travaux qui a accepté la corruption doit être révoqué, comme l'étudiant qui a corrompu, celui-là doit être aussi renvoyé. Et c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Mmh. Alors, il y a une préoccupation en rapport avec un groupe d'études. Il y a un auditeur qui a dit qu'il a l'habitude d'étudier en groupe.
Un groupe avec ses collègues, et à la fin de l'année,
il constate que...
Lui, il a réussi, bon, mais ses collègues n'ont pas...
Mais c'est un problème d'assimilation de la matière. Parce que la matière, il faut, en définitive, il faut la maîtriser. Mmh. Il faut avoir la maîtrise de la matière. Mais lorsque quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup lire, mais en réalité, le jour de l'examen, il passe à côté de la bonne réponse, cette façon-là... de toute façon, pour l'enseignant, ce n'est pas le fait que vous ayez beaucoup lu qui importe. Ce sont les réponses aux questions qu'il pose. Mmh. Et il va vérifier si les questions... Les réponses sont bonnes. Si ce sont de bonnes réponses, on vous donne les points que vous méritez.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Philippe Ntonda, qui est au cas. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général académique de l'Institut facultaire de sciences et de l'information et de la communication, professeur ordinaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.